Alors aujourd'hui, la thématique, la question qui nous intéresse, c'est quels sont les outils de formation, de quels outils de formation on a besoin ou quels outils on utilise et qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour aborder la question des communs dans des contextes d'apprentissage, de formation, de découverte. C'est-à-dire comment mettre en place des conditions pour aborder cette question à partir des pratiques, mais en même temps en allant mobiliser les apports théoriques qui sont plus ou moins bien connus, qu'on retrouve aussi bien chez des gens comme Ostrom ou d'autres, mais Ostrom étant peut-être la plus facile à percevoir dans ce contexte-là. On a présenté donc je vous laisse lire la partie sur le pad avec les présentations individuelles. Un certain nombre de personnes se sont présentées. Si vous voulez compléter, n'hésitez pas à le faire. Et puis ensuite, on a proposé une petite présentation de notre thématique aujourd'hui avec des questions à la fois qui s'adressent aux participants et les questions éventuelles des participants eux-mêmes. Donc, on peut voir que la page est déjà assez riche. Moi, ce que je voudrais vous faire comme petite introduction, puis après, je laisserai circuler la parole. Je vous proposerai en tout cas de rebondir. C'est simplement vous partager une des raisons qui nous a amené à proposer cet appel aujourd'hui. C'est que il y a quelques mois, au mois de novembre et ensuite le mois dernier, on a été amené à Remix the Commons à proposer des journées de formation à une organisation qui s'appelle Terre de Liens, que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent, au moins de nom. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, notamment que on avait un certain nombre d'éléments sur lesquels on s'appuie dans les discours quand on parle des communs, et qu'en fait on manque d'outils qui nous permettent de jouer avec de choses, de les mettre en action. Par exemple, lorsque on est dans une de ces journées, on avait mobiliser la question, les huit principes d'Ostrom, et on se rendait compte dans ce moment-là que finalement, en dehors du fait de les présenter, de les lister, d'en faire la liste et de partager la liste, bah, finalement, quand on essayait de partir des expériences de communing qui sont connues par les personnes qui étaient présentes, c'était assez difficile finalement de mettre les deux en regard et de voir comment on pouvait jouer de l'un avec l'autre, à la fois pour mesurer les initiatives d'une certaine façon, et puis interroger les éléments théoriques tels que celui-là, tels que les huit principes d'Ostrom. Et donc c'est une des choses qui a vraiment motivé cette proposition de rendez-vous aujourd'hui, de sujet pour l'appel en commun aujourd'hui. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Peut-être que vous pouvez, les uns ou les autres, partager vos expériences dans ce domaine-là et les réussites ou les difficultés que vous avez pu rencontrer. Alors,
oui, je veux bien commencer.
Vas-y, Nadine.
La première chose, c'est les difficultés qu'on a pu rencontrer ensemble, Frédéric, avec toi, Sylvia, Fredriksson, entre autres, sur cet accompagnement auprès des salariés de Terre de Liens, où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup sans doute de matière théorique, mais que rien qui permette de les transmettre à proprement parler, c'est-à-dire comment faire d'une masse d'informations souvent un peu rude, du juridique, etc. Comment faire de ces informations quelque chose de suffisamment digeste et surtout qui puisse prendre du sens dans le contexte des personnes qui sont devant nous. Ça s'appelle des ressources pédagogiques. Ça, c'est une chose. Puis l'autre, c'est dans un collectif, dans une association où je suis très, très attachée, mais, enfin, où je pratique pas mal, je me rends compte que en dehors de la notion de Creative Commons, qui est bien passée dans les mœurs là, au sein de ce collectif, et de certaines autres choses comme l'utilisation de fonds de map qui ne viennent pas de Google, par exemple, pour créer des cartes aux parties participatives. En dehors de ces éléments-là, de Creative Commons, de la question des licences, la notion de commun a du mal à prendre corps et a du mal à s'exprimer d'une certaine manière dans des pratiques, voilà, à l'intérieur même du collectif. On a un wiki, on y met nos photos, c'est une pratique évidemment, mais ça sort. Je vois bien que c'est très difficile de sortir de ça. Il faut aller un peu plus loin et creuser, et en particulier aller vers quelque chose qui permette de mettre en relief des pratiques de ce type-là, avec une dimension plus sociétale, plus politique, qui permette à chacun de se dire « je pratique les communs parce que c'est un modèle de société que je veux porter ». Ça y est pas du tout, vraiment pas du tout. Donc voilà, c'est ce double titre d'une certaine manière que je suis vraiment très intéressée. Puis moi, je design du processus de formation, du processus pédagogique à longueur d'année. Je suis fort intéressée à travailler sur cette question-là. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà pour moi.
Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Oui. Non.
Peut-être que je peux dire un mot.
Jules.
Oui.
Vas-y, vas-y.
Vous m'entendez?
Oui, on t'entend.
Bon. Alors, oui, peut-être pour présenter de l'endroit où je parle, c'est l'histoire des lieux intermédiaires. Ça vient de l'histoire des friches culturelles. C'est des pratiques d'occupation d'espace liées à un enjeu artistique, de création en général, c'est des lieux où on a requis par des artistes pour pouvoir bosser, des artistes qui ont besoin d'espaces disponibles de travail. Ces pratiques, elles se sont constituées depuis des usages et de manière très collégiale, très partagée. Donc, elles ont beaucoup à voir avec des communs, mais elles sont engagées bien avant que le mouvement des communs soit quelque chose de formalisé, un peu explicite. Ils font un peu des communs sans le savoir. Et aujourd'hui, pour nous, il y a un gros enjeu de transmission qui est lié au fait que ces pratiques ont un peu plus d'une vingtaine d'années. Il y a toute une génération d'acteurs qui est passée. Les lieux restent assez fragiles. Beaucoup disparaissent dans les 10 premières années. Et du coup, la transmission de ce qui s'apprend, de ce qui se produit comme savoir autour de ces expériences, de ces pratiques, notamment le savoir faire en commun, se perd facilement. Et du coup, chacun, très pris dans son expérience micropolitique, réinvente un petit peu à chaque fois le tout. Ça crée une fragilité des acteurs, et cette fragilité est renforcée par le fait qu'en ce moment, il y a une réappropriation de ces pratiques depuis des enjeux qui sont beaucoup plus des enjeux, disons, des logiques de management privé, quoi, classique. D'ailleurs, de management public, classique. Les exemples sont nombreux. C'est du côté du management public, on a le 104 à Paris qui fait friche. Et depuis une logique d'agencement très, très politique publique. Et puis, du côté du privé, on a des choses comme l'école des tiers-lieux, le CINIUPO, la recyclerie, on en a beaucoup en banlieue parisienne, Darwin à Bordeaux, les Halles du Faubourg à Lyon, les cartoucheries à Toulouse, des lieux qui sont en fait des initiatives privées à proprement parler, avec un modèle économique standard et une organisation, un management qui sont industrie créative. Il n'y a plus grand-chose à voir avec les communes. Donc il y a un enjeu de... Il ne faut plus se permettre de simplement le faire sans le savoir, quoi, en quelque sorte. Donc il y a un enjeu de formation autour du fait de se saisir de ce qu'on fait. De mieux le comprendre pour pouvoir aussi mieux le défendre. Voilà. Et le réseau dont je m'occupe, c'est un réseau qui est une plateforme de ressources et de réflexion sur ces pratiques. Il a d'abord été donc, c'est d'abord pensé comme une façon de produire de la réflexion sur ce qu'on faisait. Et qui, du coup, a effectivement aussi été un lieu de transmission, mais pas de façon formalisée. Alors, donc, l'enjeu pour nous, et ça me paraît très intéressant d'être là, c'est pour ça que je suis venu, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est mis sur la table. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des logiques de formation, mais qui restent au plus près des pratiques et dans ce rapport de transmission pair à pair, où les savoirs ne sont pas descendants et sont bien produits depuis les usages. Comment on rend visible ces savoirs, comment on les rend partageables. Bon, voilà, c'est tout ça.
Je prends la suite éventuellement.
Oui, vas-y Michel.
Bonjour, donc Michel Briand, moi je suis sur Brest et sur Rennes. Alors, j'ai envoyé un petit mail sur la liste échange, mais je l'ai mis là aussi. Donc, j'ai initié là un début de collecte que j'appelle « Sans commun pour nos communes ». Qui vise en fait à illustrer un peu des communs dans les territoires pour pouvoir prolonger l'article qui avait été publié. Et sur le site de VK, c'est ce qui sont aujourd'hui. J'ai en France. Et lorsqu'on avait publié l'article de 16 propositions pour les communs, on a été en mars 2014, au dernier moment. Donc, ça n'a pas pu être utilisé par les acteurs. Et l'idée, c'est donc d'essayer de, si possible, quoi, de raconter, de décrire des communs en France. Donc, moi, j'ai commencé pour la Bretagne, j'en ai déjà une centaine. Donc, si on prolongeait sur l'ensemble des régions, ça nous ferait à peu près 2500. Donc, 2500 descriptions de communs ou racontages de communs, ce serait déjà un premier pas. Malheureusement, si en Bretagne, on a une habitude de si contributif qui raconte des choses, ce n'est pas le cas dans la plupart des régions, et donc je n'arrive pas à en trouver ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Et un deuxième point, l'idée, ça serait de reprendre les 16 propositions de VECAM en élargissant le champ économique qui avait été assez peu abordé à ce moment-là, et de faire un article sur chacune des 16 propositions qui, à ce moment-là, s'appuierait sur, non pas une ou deux descriptions comme Valérie et Hervé l'avaient fait en 2014, mais en mettant 10 ou 15 liens à chaque fois pour décrire effectivement des communs qui correspondent à chacune des propositions. L'idée, c'est de faire en sorte que, comme aujourd'hui, il y a pas mal de listes citoyennes qui se mettent en place en France, ou même de listes pour des communs comme à Nantes, par exemple, d'essayer justement d'épauler ceux qui veulent se saisir des communs. Alors après, on sait bien qu'il y a beaucoup de common washing là-dedans, hein, donc c'est pas beaucoup d'illusions, hein. Il y a des gens qui s'appellent communs et qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec les communs, mais l'approche irait non partidaire, dans la mesure où le but était plutôt d'expliquer comment les communs peuvent rentrer dans des politiques municipales et faire en sorte que le maximum de gens puissent s'en emparer pour que, quelque part, les communs soient présents dans cette campagne. Voilà un petit peu le travail sur lequel je suis. Et puis, un deuxième volet, comme on a initié depuis 2009 des temps particuliers qui s'appellent Brest en commun, donc qui ont lieu tous les deux ans. Et à Brest en commun, donc on sera à la 5e ou 6e édition, je ne sais plus combien, 2009, 2016, 2017, 2019, 6e édition. Et comme en 2017, on avait lancé un atlas des communs, Donc l'idée est de décrire cette fois-ci des communs, c'est-à-dire qu'est-ce que, qui fait partie du commun, qu'est-ce qui produit, quelle est la gouvernance, quels sont, comment gérer la pérennité, etc. On a dû faire une dizaine comme ça de communs brestois et l'idée c'est de doubler la mise un peu pour 2019 et d'avoir comme ça sur le petit territoire de Brest alors déjà une vingtaine de communs qui soient décrits et puis que peut-être ailleurs d'autres suivent un peu le mouvement. Voilà un petit peu côté commun sur lequel, les projets sur lesquels je suis. Avec donc Frédéric qui est partant pour écrire un article sur la huitième proposition qui concerne la nature en ville, les communs autour de la nature en ville. Et la COP des communs devrait écrire aussi des propositions autour du volet un peu économique.
Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que la personne qui, avec le bruit de fond à l'arrière, puisse couper son micro ? J'ai beaucoup de mal à entendre quand quelqu'un parle. Merci.
Je ne sais pas, vous entendez toujours ? Ah, c'est beaucoup mieux. Il n'y a plus de bruit de fond.
Ça peut être moi.
Est-ce que ça marche maintenant ou pas? À part
Faut que tu remettes ton micro.
Oui, il faut que je remette mon micro. J'étais en train de parler dans le vide. Excusez-moi. je disais, Jules, si tu veux, tu peux remettre ton image. Hein. On peut te voir, même si on ne t'entend pas. Est-ce que Philippe ou Sonia, est-ce que vous voulez réagir un petit peu à tout ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous voulez partager votre propre expérience?
Si Philippe veut parler tout de suite, autrement, je pourrais. J'avais quand même une idée de quelque chose que j'aurais voulu dire.
Eh ben, Sonia, vas-y, élancez.
D'accord. Et je confesse que sur la dernière intervention, j'ai eu quelques soucis d'audio qui étaient très distorsionnés, du coup, je n'ai pas tout entendu. Mais c'est par rapport particulièrement à la question que Madame Nicole, c'est ça, a dit, des outils pédagogiques. Ça reprend un petit peu aussi des éléments que ce que j'avais essayé de discuter avec Frédéric quand on était à Barcelone pour le forum social. C'est en fait, je pars de l'expérience de découvrir à peu près le concept des communs seulement l'été dernier à l'université d'État du mouvement citoyen. Bon, j'avais quelques notions de la question du municipalisme, mais vraiment la notion des communs, c'est là-bas que pour moi a été plus découverte. Et du coup, à un moment donné, je me suis rendu compte que au long de l'expérience, l'implication, le projet dans lequel je suis plus active en ce moment qui concerne le principe de la souveraineté alimentaire, mais dont l'expression pratique, je l'appelle souvent la pointe de l'iceberg, c'est un fonctionnement à travers des commandes groupées, qui voudrait reprendre les valeurs d'une AMAP. Et d'après ce que je peux comprendre du concept de commun, me semble que les AMAP, s'ils sont pas en soi déjà en commun, ils ont énormément de valeurs en commun, quoi. Des mêmes racines de valeurs. Après, probablement, c'est une question de gouvernance ou pas, le fait qu'elles puissent être considérées des communs. Si je dis une bêtise, reprenez-moi, hein, parce que je suis la première qui a vraiment envie d'avancer dans ce sujet-là, mais je reconnais que je suis vraiment à mes prémices. Du coup, il s'avère que le système de commandes groupées que j'avais mis en place partait d'une initiative totalement naïve et amicale pour complémenter l'offre dont nous disposions au niveau des AMAP avec des produits locaux et biologiques, mais bon, esprit biologique si on veut, mais qui ne remplissaient pas l'ensemble de nos besoins alimentaires basiques par des relations privilégiées, un circuit court avec des producteurs qui, de fil en aiguille, j'ai petit rencontré, établi d'avoir des liens humains, et par la suite, vu la possibilité d'organiser ces commandes groupées, toujours dans une optique voilà, de non-concurrence, de mutualisation des ressources, parce que depuis la première fois où j'ai été totalement dépassée par ce que j'aurais pu affronter moi-même, il y a eu cette fonctionnement coopératif qui s'est mis en place sur les ressources, que ce soit autant un lieu où les stocker, la question de transport, sur le fait de m'aider à écrire des textes, choses dans la sorte. Et à un moment donné, j'ai vu combien j'avais envie de que cette expérience qui a commencé à prendre de l'ampleur, elle puisse être un élément qui véhicule les valeurs qui pour moi m'est très chère à travers de la souveraineté alimentaire. Il s'est avéré que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes, et particulièrement des organismes qui faisaient supposément l'accompagnement pour des l'incubateur de l'économie sociale et solidaire, qui me demandait de faire des prévisions, sorte business plan sur des numéros, des budgets, des choses de la sorte, qui m'obligeait, qui supposait faire des choix de fonctionnement sur lesquels je ne me sentais pas licite de prendre ces décisions, et donc j'avais cette impression que si j'ai décidé de mon côté, c'était presque comme une imposition de ma part à l'ensemble de la communauté qui participait à tout ça, parce que finalement je me disais, j'ai la possibilité, il s'avère que j'ai cette capacité de pouvoir mettre ces temps, talents, tout ce que tu veux dire, à disposition de la communauté pour ça, mais je veux que si on établit des outils pour mieux gérer, pour nous permettre de grandir, mais sans que ça devienne étouffant, que ce soit, j'avais toujours pensé à dire, on va le faire à travers une sorte de plateforme qui permettra que moi, j'ai contact avec le producteur, dans mon cas, c'était l'huile d'olive, le riz, les légumineuses, machin, mais il y a cet autre ami qui fait à peu près la même chose avec quelques amis, avec des noix, et l'autre qui le fait avec du quinoa, une machin comme ça, mais quelque chose que donc chacun doit pouvoir s'en approprier et le gérer dans une certaine harmonie pour tous ceux qui participent, l'ensemble de la communauté, mais dans une autonomie en même temps. Et quand ces organismes d'accompagnement pour création d'activités voulaient m'efforcer à faire un business plan, il y a décidé sur combien de producteurs on allait travailler et combien on allait proposer un certain pourcentage ou une demande de participation aux frais de fonctionnement, de transport, de machin comme ça. Je disais, mais moi, je ne me sens pas d'ici à prendre ces décisions-là, au-delà de ce qui est l'aspect financier, qui pourrait être plus ou moins confortable pour moi. Je me disais, il y a un blocage là derrière qui me disait, je ne me sens pas capable de décider par moi-même. Et c'est en entendant ces petits éléments sur ce qu'était la philosophie des commandes que finalement, je me suis dit, j'arrive pas à savoir si je suis dans le juste ou pas, mais j'ai l'impression que pour moi, dans ma façon de le voir, cette initiative, c'est le fait de créer un commun. Mais même moi, je n'étais pas consciente de que c'était ça quand j'ai commencé à le faire. J'arrive pas encore à être très, très au clair sur tous les éléments, les 8 choses que vous avez dit de ce métier en fond, donc dans la sorte. Et je ne me sens pas capable de exposer cette réflexion-là à l'ensemble des personnes qui participent, parce qu'aujourd'hui, on est au moins entre 170 et 200 familles en total. Ça commence à faire un volume déjà important. Je sais que je n'arriverai pas à tous les réunir dans une salle pour qu'on fasse un débat sur le sujet. On a chacun son plein de temps, son machin. Et je ne suis pas spécialement douée à faire des grands discours et des grands documents pour tout expliquer. Mais je me dis, de quelle façon, déjà, avoir une sorte de petite analyse de retour pour dire, dans ce qu'on fait nous aujourd'hui, qu'est-ce qui correspond vraiment au commun et où on est un peu perdu dans les clous, et de quelle façon interpeller l'ensemble de la communauté, parce que moi je le vois de cette façon-là, l'ensemble de la communauté, pour dire, et cette action qu'on fait ensemble depuis maintenant bientôt 5 ans, en fait, pour moi, de mon point de vue, c'est un comment. Qu'est-ce qu'on aurait comme
Sonia,
pour pouvoir l'harmoniser?
Ouais, Sonia, ce que j'entends très bien moi dans ce que tu nous dis, c'est le besoin de gens qui sont les mains dans le cambouis de pouvoir disposer de quelque chose. Alors, moi, j'appelle ça des outils. Tout à l'heure, Nadine disait des ressources pédagogiques qui permettent effectivement. Quand tu es dans l'action, finalement, de regarder l'action que tu es en train de produire et de voir comment ça qu'est-ce qui fonctionne bien, comment le modifier, etc. Et avoir une capacité à prendre un certain recul, c'est-à-dire de pouvoir regarder ça à travers des lunettes.
Oui, et déjà, je veux dire, lunettes de l'action. Un certain recul.
Je vais passer la parole à Michel parce qu'il la demande depuis un petit moment, si tu veux bien.
Oui, ce que je pense aussi, c'est que des exemples comme celui qui a présenté, il y en a partout en France, enfin en France et ailleurs. C'est-à-dire que sur Brecht, je connais plein de projets autour effectivement de ces questions-là, à Rennes également, à Nantes. C'est important que les gens commentent avec leurs mots ce qu'ils font, sans forcément aller très loin dans la ligne, et déjà de faire en sorte que les choses se partagent. Des initiatives, je pense qu'en France, il y en a des centaines, des milliers. Et aujourd'hui, tout ça n'est pas forcément très visible parce que les gens ne racontent pas ce qu'ils font. Donc moi, je pense qu'il y a un premier élément qui est important, c'est déjà de donner à voir pour que les gens, du coup, après, échangent entre eux, se rencontrent, se posent des questions et progressent dans l'analyse. Mais quand on cherche aujourd'hui sur les territoires visants, on ne trouve pas grand-chose.
Moi, je ressens une problématique au niveau de la capacité de faire vulgariser en certaines vocabulaires, en certaines terminologies, qui fait que déjà, j'ai du mal à faire comprendre est-ce qu'il y a un tierce lieu quand j'en parle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà plus apprendé. Mais quand j'essaie de parler de ce qui est en commun, je n'ai pas l'impression d'avoir les bonnes bases pour arriver à faire comprendre ça à l'ensemble de la communauté.
Il ne faut pas commencer par si compliqué. Commence par simplement décrire ce que tu fais, mettre des mots sur ce que tu fais de façon à ce que les autres le voient. Et à partir de ça, c'est des mots en français. Chacun raconte avec son vécu ce qu'il fait. Et après, les mots viendront tout seuls. C'est-à-dire la notion de commun ou les notions de coopération, etc., de partage, viendront toutes seules. Mais déjà, où est-ce qu'on peut trouver ce que tu dis? C'est-à-dire que ce que tu dis oralement, où est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est public?
Tu veux dire aujourd'hui? Non, on n'a pas documenté, c'est clair.
Voilà, donc c'est vraiment important parce que sur les tiers-lieux, ce qui a fait la force du mouvement des tiers-lieux, c'est un site comme Movilab où il y a des centaines de descriptions de ce qu'est un tiers-lieu et comment ça marche. Et donc, sur ce thème-là de l'autosuffisance alimentaire, des circuits courts, il faut qu'on raconte. Et à partir du moment où on racontera, le mouvement se mettra en place.
Alors, Philippe, est-ce que tu veux prendre la parole à ton tour?
Salut.
Salut.
Nous, c'est une démarche de territoire. Dans ce que vous venez de que j'ai écouté, enfin, ce que j'ai entendu, je retrouve beaucoup de points communs. On a une dynamique collective autour d'un pôle territorial de coopération économique. On anime un tiers-lieu, enfin, on tente d'animer un tiers-lieu qui est porté par une société coopérative intercollective, une SCIC. On est dans les Alpes-Maritimes. Et la particularité, c'est que il y a un centre de recherche en sciences sociales qui a été dès le départ, mis au milieu de tout ça. Donc ça dans le sens de ce que tu disais, Frédéric, quand tu aurais exprimé un petit peu ce que venait de dire Sonia, sur comment prendre du recul. En fait, nous, la façon de prendre du recul, c'est que des chercheurs, en plus, plutôt dans une démarche de recherche-action, hein, c'est pas des chercheurs sur le plan bord, pose un regard et on essaye d'organiser des allers-retours entre la recherche et donc la documentation autour des communs. Donc, je suis assez gêné personnellement sur le fait de l'utilisation du terme commun de manière un petit peu générique. J'entends souvent des confusions avec entre guillemets, simples initiatives d'économie sociale et solidaire qui ont plein de sens. pas forcément des communs, qui ne sont pas forcément voulus comme des communs, qui ne sont pas forcément vécus comme des communs, et les qualifier de communs, c'est juste mon ressenti. Hein. C'est peut-être soit une forme d'appropriation, soit une façon de court-circuiter ce que ces initiatives tentent de faire. Donc, la démarche qu'on tente de suivre, c'est plutôt de chercher à contribuer à développer des initiatives sur des enjeux de la transition écologique, divers et variés, alimentation, agriculture, déchets, déplacements, numérique, évidemment. Voilà, et les mots viennent après. Les mots viennent après. C'est la façon de faire les choses qu'on essaye de mettre en avant de façon assez pragmatique, et ensuite le retour vers la recherche et ses allers-retours. De ce fait, ça permet de commencer à essayer de construire des histoires. Mais alors, tu vois, franchement, Michel, les histoires, c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà où on en est. Voilà où on en est actuellement. Les enjeux là, c'est d'essayer de. Alors, on dispose d'un certain nombre d'outils issus à la fois des dynamiques de recherche, mais aussi d'outils de terrain qui sont en Creative Commons. Et on essaye là de travailler des outils structurants, comme par exemple les finances de territoire. Donc, au-delà des monnaies locales complémentaires, par exemple, qu'on retrouve un petit peu à différents endroits, c'est plutôt de regarder comment, sur un territoire, on arrive, d'une part, à mobiliser différents outils qui pourraient être gérés dans une dynamique de commun, et d'autre part, comment on arrive à créer des chaînes de valeur qui viennent alimenter ces ressources pour pouvoir diffuser et pour pouvoir accompagner des initiatives qui sont nécessaires et structurantes, mais pour lesquelles actuellement le financement est compliqué. Voilà.
Alors, bah merci Philippe. C'est intéressant parce que tu donnes, que tu décrives la démarche comme ça. Moi, ce que j'ai entendu dans l'ensemble des contributions là, c'est qu'il y a quand même une diversité d'approches et de pratiques de formation qui sont intéressantes à nommer. C'est-à-dire que qu'on parle de description d'expérience, de description ou documentation, en tout cas de processus de racontage, pour reprendre le terme de Michel, de racontage d'histoire, du racontage jusqu'à la documentation peut-être la plus élaborée. On voit qu'il y a une dynamique autour c'est comme une famille quoi de pratiques. On a quelque chose autour des outils pédagogiques ou des ressources pédagogiques, comme disait Nadine tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour se donner des lunettes qui permettent de travailler sur tel ou tel aspect de la dynamique, que ce soit regarder ses modes de fonctionnement, que ce soit regarder à quoi ça appartient, comme tu disais Philippe, est-ce que ça fait partie de l'économie sociale, ou est-ce que l'économie sociale vient nourrir la question des communs, ou comment les mécanismes économiques se mettent en œuvre. Tu parlais de chaînes de valeur, des choses comme ça, par exemple. Moi, je parlais avant des principes d'Ostrom et des mécanismes de coopération, par exemple. Mais j'avais un autre exemple en tête, moi, qui m'était venu aussi dans l'expérience qu'on avait eue. C'était, au fond, comment est-ce qu'on peut rendre plus palpable la notion de faisceau de droit, par exemple. Voilà, c'est une idée qui est super intéressante, la notion de faisceau de droit, mais on peut l'illustrer par des exemples. On peut dire, bah voilà, dans telle situation, t'as telle ou telle chose, tu peux donner des exemples concrètement, mais comment est-ce qu'on peut après s'en servir pour se doter d'un outil qui nous permet après de jouer avec, de construire des faisceaux de droit qui seraient des faisceaux de droit spécifiques dans une situation donnée, par exemple. Imaginez les différentes dimensions d'un faisceau de droit qui nous conviendrait bien. Je sais plus, quelqu'un disait tout à l'heure, je crois que c'est Nadine peut-être qui disait, Creative Commons, tout ça, ça nous parle bien, mais au-delà de ça, on a du mal, par exemple, à rendre ça plus palpable, quoi, quand on parle des communs. Ouais, et j'ai l'impression que, voilà, derrière cette question de ressources pédagogiques, on aurait là peut-être des leviers qui nous permettraient de manipuler. Alors, il y a tout un courant qui travaille sur la ludification, sur la gamification de ces mécanismes-là ou de ces connaissances-là qui peut être intéressante. Ce que j'entendais aussi, notamment dans ce que disait Jules, c'est toute la dimension échange de pratiques, de l'ordre des lieux, comment est-ce que le lieu permet de fabriquer de la circulation de connaissances, de la circulation de connaissances pratiques, qui me semble intéressante. Et puis la dernière dimension que j'entendais dans ce qui a été dit là, c'est la dimension recherche-action, que tu as moins détaillé, Philippe, mais sur laquelle je pense que voilà, il y a quelque chose dans la relation à la recherche et dans la relation à la production de connaissances au sein même ou à partir même des pratiques, qui est vraiment aussi quelque chose d'intéressant. Je me rends compte en parlant que je crois que Michel, je t'ai un peu sauté ton tour, donc si tu veux intervenir, n'hésite pas à le faire. Je te laisse la parole.
Juste pour compléter.
Excuse-moi, je ne parlais pas de Michel Brillant, je parlais de l'autre Michel.
Excuse-moi, je ne le vois pas à l'écran.
Non, pas de remarques particulières. J'écoute vos expériences et je suis heureux que Philippe soit là, que je vois avec plaisir, puisqu'on va essayer de mettre quelque chose en place avec Tetris.
Du coup, Michel, vas-y, brillant si tu veux.
Non, moi, j'insiste sur le donner à voir et la création d'une culture, justement, de faire en sorte que sur le territoire, de plus en plus de gens se réclament des communs. C'est un peu le pas qu'on a essayé de franchir sur Brest, c'est-à-dire de mettre un logo à disposition sur les communs et celui qui veut le met. Donc, c'est chacun qui décide si son action, il considère que ça s'inspire des communs. Et l'étape après, c'est que chacun raconte un peu avec ses fragilités. C'est-à-dire que dans une approche faisceau de droit, tu es plus ou moins commun sur un truc, tu peux être moins sur un autre, mais que les gens, justement, soient accompagnés pour raconter en quoi ils sont communs, en quoi ils sont moins communs, et qu'on ait comme ça une diversité d'expériences. Et c'est, à mon avis, à partir de cette diversité-là, d'expérience, ben, qu'on arrivera aussi à mieux comprendre les communs, à mieux les faire comprendre. Aujourd'hui, le nombre d'universitaires qui travaillent sur les communs est énorme. Hein, il y a plus d'une dizaine de thèses en cours. Hein, il y a un pad où il y a l'analyse de ces thèses-là. Il y a plein de gens qui écrivent sur les communs, mais il y a très peu de gens qui passent ne serait-ce que le dixième du temps à raconter, à décrire ce que sont les communs. Donc, c'est quand même un paradoxe, si tu veux, les chercheurs. Ils réfléchissent sur la théorie des communs, sur les critères et tout ça, ils ne vont pas voir sur le terrain, ils ne décrivent pas et puis ils ne partagent pas les choses. Quand tu regardes la plupart des universitaires qui publient sur les communs, ce n'est pas en Creative Commons sans publication. Donc, on a besoin de raconter les choses. Et je pense que les universitaires doivent aller au contact de tous ces communs qui existent près de chez eux et les raconter. Il faut faire de la recherche-action et pas simplement de la recherche.
Moi, je crois que tu... Non, il y a beaucoup plus de chercheurs qui vont sur le terrain que ce que tu. Enfin, nous, en tout cas, on en voit beaucoup et on voit des chercheurs qui sont demandeurs de terrain. Alors pas tous évidemment, mais cette dynamique acteur-chercheur, elle est quand même bien présente. De toute façon, les acteurs ont besoin aussi d'avoir le retour des chercheurs pour comprendre. Il y a une, à mon sens, un enjeu de diffusion des idées là qui est extrêmement importante. Qui ne peut pas passer que par de la diffusion intellectuelle, quoi. Qui vient parce que on fait. Alors, peut-être que ce qui, tu vois, qualifierait en tout cas pour moi la démarche, c'est le fait de mettre en œuvre. Parce qu'on met en œuvre, alors on a le lien avec les chercheurs. Quoi. C'est ce qu'on vit un petit peu ici, et y compris de chercheurs qui ne se revendiquent pas de chercheurs sur les communs en particulier, quoi. Il peut y avoir des géographes, des sociologues, des anthropologues, divers et variés, qui ne vont pas qualifier leur démarche de recherche sur les communs, qui viennent, nourrir les réflexions et permettre des transversalités qui sont fructueuses au bout du compte. Du coup, le côté je me qualifie de commun, ou voire même si on va au bout des choses, je me labellise comme un commun, ça se relativise beaucoup, quoi.
Voilà. Et juste parce qu'il y a un quiproquo, j'ai pas dit que les chercheurs n'allaient pas en rencontre des terrains. Je dis qu'ils ne racontaient pas, ils ne publiaient pas en Creative Commons, de façon partagée, ce qu'ils vont voir. C'est-à-dire, regardons une série, trouve-moi des publications qui racontent des communs du territoire en France, si tu m'en trouves 50, tu as gagné.
Alors, moi, je voudrais compléter ce que vous dites là, parce que il y a un exemple que j'ai fait circuler il y a quelques jours et je crois même ce week-end qui date de peu, c'est l'aventure de Martin Zibaud. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est quelqu'un qui n'est pas un chercheur, hein, qui est en fait quelqu'un qui fait de la médiation sociale au Québec, en Gaspésie, et qui a choisi cet hiver, enfin en Gaspésie il y a de la neige hein, en ce moment encore, et qui a fait pendant 24 jours, qui a fait un tour en vélo, qui a fait le tour en vélo de la Gaspésie pour justement aller à la rencontre des gens et faire, pas forcément regarder les communs en tant que tels, mais faire un travail de documentation et un travail de médiation qui est directement articulé à finalement comment à l'idée de d'un territoire en commun, c'est-à-dire de concevoir ou de renforcer et de nourrir la perspective des communs dans un territoire comme la Gaspésie. Et je trouve que ce qu'il raconte était très intéressant. Je pourrais remettre le lien vers l'interview qu'il a fait il y a quelques semaines maintenant, où il raconte ça, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant la façon dont il montre que à travers toutes ces rencontres, qu'il a fait 25 jours de vélo dans le tour de la Gaspésie en allant chez l'habitant chaque soir, en rencontrant les gens, en faisant des échanges, en enregistrant des capsules audio, des sortes d'interviews avec les gens, etc. Et ça donne tout un matériau qui est un matériau qui d'une certaine manière donne pas à voir une initiative du style telle coopérative ou telle AMAP ou tel projet, mais qui donne à voir la façon dont les gens se relient dans le territoire, la façon dont ils vivent le territoire, la façon dont ils veulent y projeter des choses. Et je trouve que c'est très intéressant. Il revient. Parce qu'il dit, c'est qu'il revient de là avec un tas d'idées qui lui sont proposées par les gens, enfin qui lui sont proposées, que les gens disent qu'ils voudraient les mettre en place, et lui se disant, je verrai dans quelques temps si ça se met en place ou pas, et peut-être comment accompagner ce genre d'idées, et qui du coup montre aussi comment comment les gens se projettent à travers des pratiques qui peuvent, de mon point de vue, qui peuvent être considérées comme des pratiques de communing, de micro-communing, on pourrait dire, qui donnent à voir du territoire vivant, quoi, d'une certaine manière. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est aussi une manière de reposer la question de l'intervenant social, du métier même d'intervenant social, du métier de médiateur. Alors moi, quand j'étais jeune, on disait animateur, on disait pas médiateur. Maintenant on dit médiateur, facilitateur, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est intéressant. Enfin, cette démarche, je trouve qu'elle est super intéressante aussi parce qu'elle repose cette question-là et que dans cette histoire des récits, dans cette histoire de la formation ou de l'apprentissage, de la transmission de connaissances, etc., l'animateur, je dirais que c'est son cœur de métier d'une certaine manière. Et du coup, on voit que là, il y a vraiment une recomposition de ce métier-là et que c'est intéressant de regarder ça aussi, à la fois comme une recomposition et d'interroger quels sont les moyens, quels sont les outils dont on dispose pour faire ce travail-là. C'est ce que tu disais, Nadine, hein, tu te décrivais comme ça aussi tout à l'heure. Comment est-ce que on peut avoir comment est-ce qu'on peut renforcer ces dynamiques-là et les qualifier d'une certaine manière en regardant. C'était aussi un peu ça l'objet de l'appel d'aujourd'hui, c'était de se dire, au fond, de quoi on a besoin pour ça, de quoi on aurait besoin, qu'est-ce qui nous aiderait, qu'on soit un militant ou une personne engagée sur une initiative, qu'on soit un chercheur ou qu'on soit aussi un médiateur qui joue ce rôle-là. Et ce médiateur, ça peut être quelqu'un comme Jules qui anime un réseau, quelqu'un comme Mathieu qui vient d'arriver et qui est la personne qui a créé le jeu de cartes en commun, ou quelqu'un comme Nadine ou moi, etc., etc., ou Philippe qui intervient sur un tiers lieu. Voilà.
Il y a Jules qui aimerait parler.
Eh ben vas-y, Jules.
Un petit message tout à l'heure en disant dans le chat du pad.
D'accord. Et ensuite, Mathieu, bonjour, tu nous diras sûrement quelque chose. Vas-y, Jules.
Oui, vous m'entendez ?
Oui.
Oui,
très, bon. Très bien.
Très bien. Oui, c'était pour faire un retour sur cette question des récits de lieu, des récits d'expérience et de cette articulation entre recherche et action. Parce qu'au sein de notre réseau, on a cette pratique-là à la fois de la recherche-action et de la mise en récit de nos lieux de longue date. On le fait sous la forme d'ateliers de réflexion. Et on l'a aussi beaucoup travaillé avec des chercheurs, Philippe Henry pour l'économie de la culture et Pascal Nicolas Lestrade pour la sociologie. Et on s'est beaucoup nourri mutuellement dans nos travaux respectifs les uns des autres à travers ces processus de mise en récit, justement. Donc, j'abonde à la fois sur le fait que c'est des enjeux essentiels de faire le récit au plus près de l'expérience des lieux, des pratiques. Ce qu'il y a, c'est que pour faire ces récits et que ça ait un peu de sens, il faut les faire depuis un propos. Il faut avoir un sujet qui active la mise en récit. Il n'y a pas de mise en récit générique. Il est toujours orienté vers quelque chose qui la met en problématique, qui la met en tension et justifie. Tout d'un coup, on raconte quelque chose. Je pense que ça, c'est un enjeu important. Et du coup, c'était aussi pour dire qu'effectivement, il existe déjà, même si ce n'est pas labellisé commun, tout un tas de récits et de démarches de recherche-action travaillées, en tout cas dans mon histoire, dans l'histoire de mon réseau, quoi, sont déposés, sont accessibles, ont donné lieu à des livres, alimentent le centre de ressources qu'on gère, factories.net. Et enfin, pour faire une petite remarque, cet enjeu de mettre les mots, la question du label, ça a été évoqué, il ne faudrait pas que ça devienne un label, c'est sûr, ça. C'est un truc qui a traversé vraiment notre histoire de friche culturelle. Les mots se succèdent, les titres se succèdent, et puis les pratiques, elles demeurent. Nous, on a connu Friche culturelle, on a connu Nouveau territoire de l'art, on a connu Fabrique artistique, aujourd'hui on parle de tiers-lieux culturels. Tout ça, c'est des titres qui survivent peu à leur effet de mode. Il faudrait pas que, je ne pense pas que ce soit le cas avec les communs. C'est plus un concept travaillé et un mouvement structuré que ça. Mais quand même, il y a effectivement une attention à avoir à cette chose-là, quoi. Quand on commence à mettre en place un discours sur une pratique, c'est souvent depuis une volonté de se l'accaparer, quoi. Enfin, c'est une stratégie possible. Ça existe. Oui, voilà.
Merci. Mathieu, tu veux nous dire quelque chose?
Ben, commencer par dire bonjour. Ça fait longtemps. Je suis Freddy que je connais. Là, Nadine. Nadine, allô? Bien. Les deux autres, je ne connais pas encore. Enchanté. À bientôt. Mais là, est-ce que je suis un peu confus? J'ai l'impression que j'étais tôt. Puis là, d'après l'état de la conversation, j'ai l'impression que j'étais en retard. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Ça n'est pas supposé de commencer dans 5 minutes?
Non, c'est le contraire. En fait, on est décalé d'une heure.
J'ai pas reçu la nouvelle parce que l'invitation avait été lancée à Yves. Puis Yves m'a invité il y a plus d'une semaine. Fait que le décalage, moi, ça s'était pas rendu. Fait que j'étais pas au courant.
Aïe, aïe, aïe.
Ah bon, ben c'est comme ça. C'est la vie. Ah ben c'est plate. Moi, j'avais le goût de participer à cette affaire-là. Mais c'est comme ça. On va faire les choses à l'envers. Je vais me présenter à la fin, comme maintenant. Je me présente, puis après ça, on termine. Je sais pas, est-ce que ça termine dans 5 minutes? C'est ça qui se passe?
Oui, ça va terminer dans pas très longtemps. Mais commence par te présenter, oui, Mathieu.
OK, bon, désolé un petit peu. Bonjour, Mathieu Réaume. Je suis propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Artefact. Puis le mandat de l'entreprise, c'est d'aider des organismes à cause sociale, de créer des outils qui les aide à avoir les impacts sociaux désirés. Entre autres, je suis créateur de Cartes en commun, que j'espère que vous avez déjà découvert ou rencontré. J'ai justement fait une animation sur Cartes en commun dans le cadre d'une conférence sur la réappropriation du territoire à Montréal la fin de semaine dernière. C'était très intéressant. C'est une histoire que j'aurais voulu compter, avoir plus de temps. Et puis aussi, je fais partie du groupe qui invite à Montréal pour un cercle de discussion, ce qu'on avait nommé Convenir en commun, qui discute de l'utilité des chartes dans des instances de co-gestion pour des projets en commun. Puis, dans ce contexte-là, j'applique aussi mon intérêt de créer des outils. Donc, à la fin de chaque rencontre, je récolte des notes de ce que les gens ont dit, puis j'essaie de prendre des nouveaux outils qui pourraient potentiellement aider le but de cette conversation aussi, là, d'aider l'intégration dans la conversation des communs ou de peut-être explorer la possibilité de commencer une transition d'un projet vers un projet plus commun. Fait qu'on est en émergence autour de ça. Et je voulais participer à la conversation pour approfondir ma réflexion sur le sujet, où les choses étaient rendues, et puis contribuer comme je peux avec le portfolio puis le bagage de compétences que j'ai, entre autres design graphique, design de jeu, ainsi de suite. Puis moi, je me considère pas assez spécialiste sur la question des communs pour apporter beaucoup de perspectives sur l'état des enjeux. J'aurais voulu contribuer de l'outillage. J'aurais voulu comme voir ce serait quoi les intentions, puis si on voit l'intention de créer tel et tel outil, ben comment est-ce que moi je le vois potentiellement émerger. Puis notre méthodologie est très DIY, fait qu'on peut faire des trucs relativement facilement. Fait que c'est ça, j'arrivais avec curiosité et intérêt pour essayer de jouer.
Mathieu, peut-être que tu peux nous raconter, parce que on est un certain nombre autour de la table, enfin autour de la je sais pas quoi,
ouais.
à connaître Cartes en commun, mais peut-être pas tous. Peut-être que tu peux dire en deux mots, toi, les résultats d'expérience que tu as eu avec Cartes en commun, C'est-à-dire pas tant nous raconter le jeu que de nous dire, au fond, tu as commencé à nommer tout à l'heure des exemples de pratiques que tu avais à partir du jeu. Est-ce que tu as, quel bilan tu en tires, toi, après, ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans que le jeu a été créé, quelle expérience tu en tires et qu'est-ce que tu penses qui, enfin, voilà, vers quoi on pourrait tendre pour aller au-delà de cette expérience?
Ouais. En effet, c'est sûr que 2 ans de perspective sur l'utilisation de cet outil-là m'a offert quand même beaucoup d'opportunités de réfléchir. Il y a une partie de cette conversation-là qui est déjà ouverte, là, particulièrement entre toi et moi, Fred. J'ai déjà exprimé un peu ces affaires-là. Ce que je remarque, c'est que le jeu a été designé pour être un jeu de table. Sa volonté, c'était que 2 à 5 personnes peuvent jouer ensemble pour réfléchir à une problématique politique, mais sans que le jeu lui-même soit accaparé trop lourdement du langage des communs. Ah, vous voyez ce que j'ai pas dit? Accaparé, c'était une joke. OK, là, c'est vrai. Fait que le jeu, il y a une capacité d'être assez léger où c'est possible de jouer avec des gens qui n'ont même pas la sensibilité, qui n'aborderaient même pas le jeu avec l'intention de « je vais apprendre quelque chose à propos de la politique aujourd'hui ». Donc, ça, c'est un immense avantage. C'est un peu subversif de cette façon. Si je pourrais dire bon coup, mauvais coup, je pense que le jeu réussit à familiariser des gens avec le contexte des communs à travers son contenu et puis ses mécaniques, sauf que l'invitation pour approfondir la réflexion n'est pas là. On pourrait créer des jeux de cartes à propos de vos réalités locales. Ça, c'est pas, on n'a pas l'outillage pour ça. Donc, c'est un peu une genre d'introduction, mais il manque de filet pour être capable de rattraper les curieux pour continuer la conversation. Parce que l'état des choses, c'est à chaque fois que moi j'anime des conversations, le monde ils me disent et ensuite, là, ben la seule option que j'ai, c'est de les inviter à ou des conversations de commoner, qu'il y en a un pas beaucoup, puis que typiquement c'est des gens qui sont très creux dans la conversation, ou ah ben on rejoue. Après ça retombe un petit peu sur mon horaire pour organiser une autre activité pour les faire jouer. Effectivement, il manque un lien pour être capable de comme inviter la participation. Puis deuxième problématique, c'est que je trouve que le jeu est beaucoup trop dense. Il y a trop d'informations visuelles, trop d'informations tout court, ce qui fait qu'il est extrêmement intimidant et visuellement pas assez simple pour aider les gens à relaxer, pour être vraiment en posture de jeu. Le côté co-créatif, que ça a été créé de main levée par 50 personnes pendant le Forum social mondial, ça ajoute un avantage esthétique dans le sens que c'est unique, mais le désavantage, c'est que c'est opaque, là. C'est quasiment impénétrable. Il y a plusieurs personnes qui abandonnent avant même d'essayer parce que c'est un truc de simplification visuelle. Moi, je crois que la première étape, ça serait de faire une version au propre. C'est très, très simple. Streamliner, aller à l'essentiel, unilingue, enlever tout le trop. Puis après ça, utiliser ça pour ouvrir la conversation avec des financeurs potentiels pour développer l'outillage pour que les gens puissent produire du contenu à l'image de Cartes en commun sur leur problématique locale. Moi, c'est ça que je vois comme chaîne. Que là, on aurait par exemple un site web qui offrait la chance de pouvoir de produire des cartes à la main, produire des versions, un petit peu comme ce qu'on avait réfléchi dans un certain temps. Là. Je pense que ça aiderait énormément à la fluidité de ça. Mais en même temps, à côté de ça, j'ai d'autres outils que je suggérerais qui seraient intéressants pour la question, la conversation autour des communs aussi, mais pour ce qui en est de cartes en commun, c'est ça.
Merci. Alors, est-ce que on arrive à la fin de notre conversation, effectivement. Moi, ce que j'aimerais quand même qu'on se donne quelques minutes de plus, si vous voulez, pour faire un tour de qu'est-ce que chacun est-ce que il y a là des gens qui veulent faire des choses au-delà de la conversation qu'on vient d'avoir. Par exemple, on a avec Nadine, on a commencé à réfléchir à l'idée d'une rencontre sur justement l'élaboration d'outils à partir des questions qu'on se posait tout à l'heure sur l'illustration de certaines notions liées au commun. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de monter, dans les semaines qui viennent et on va voir comment on met ça sur pied. Mais il y a peut-être d'autres choses, il y a peut-être d'autres idées. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des idées d'inventaire des outils qui existent déjà? Enfin, j'ai pas eu le temps de relire le foisonnement qu'il y a eu là sur le pad, mais on verra. Il y a un certain nombre de trucs qui sont déjà sortis, qui sont déjà identifiés. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce qu'on peut les partager maintenant? On se donne 5 minutes de plus. Pas beaucoup plus, parce que le but du jeu, c'est quand même de respecter un petit peu notre contrat, de pas aller trop au-delà. Voilà, allez-y, Michel.
Moi, ça m'intéresserait si les gens pouvaient mettre sur le pad les grilles de description en acte, c'est-à-dire des grilles de description qui ont été élaborées par des chercheurs ou des personnes, et avec la condition qu'elles aient été appliquées quelque part, donc avec des exemples concrets et pas qu'elles restent théoriques. Donc, si dans le pad, on pouvait noter les grilles qui sont, ça serait intéressant d'avoir comme ça le panel des grilles existantes appliquées.
Nous, la fonctionne, enfin, ce qu'on a constaté qui fonctionnait jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle des voyages apprenants. On propose de venir et puis de passer un petit peu de temps avec nous. Et c'est ce qui permet de transmettre jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de mieux pour nous, dans la façon de pouvoir échanger. Concernant les outils et notamment les grilles, on n'arrive pas à avoir de grille qui puisse être réutilisable autrement que à chaque fois il faut qu'elle se recompose, quoi. On n'arrive pas, on n'a pas d'outils qui puisse être mis à disposition et utilisable comme ça. À chaque fois il faut que ce soit comme une dynamique de reconstruction par les acteurs sur leur territoire, avec leur façon de regarder les choses, etc. Donc c'est plus des espèces de grilles de questionnement, de trames, que des grilles. Voilà.
Jules,
je vous rejoins vraiment tout à fait dans je me permets, excuse-moi Fred, dans cette question des trames, parce que je comprends tout à fait le retour qu'il m'a fait Yves, je crois qu'il s'appelle, sur le fait que c'est vraiment important, et je le conçois aussi, d'avoir un retour, une documentation sur ce qui sont ces pratiques sur lesquelles moi-même je m'interpelle, quels sont les éléments qui collent avec les comment et lesquels seraient à réétudier, pour dire comme ça. Mais en même temps, je dis, c'est une spécificité à moi en partie parce que le côté littéraire, ça ne me correspond pas, mais il y a aussi la question de que si on me dit ok, on va écrire ça et on va écrire les pratiques, je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que je commence à écrire? Quels sont les éléments? Est-ce que je vais me perdre dans des détails sur un truc qui n'a pas vraiment une importance au capital? Comment je concentre cette documentation sur les éléments qui vont être capitales et qui vont permettre justement une méthode comparative avec d'autres qui existent et qui permettent par la suite d'extraire des éléments communs, quoi.
Alors, Jules, vas-y, à toi.
Oui. Alors, d'une part, je mettrai en lien un renvoi vers un référentiel des lieux intermédiaires qu'on a élaboré précisément dans le but de permettre de positionner les lieux qui composent notre communauté autour de cette question de leur pratique en commun et donc de faire une sorte de topologie un peu des lieux et qui a été appliquée à tous les lieux qui faisaient partie de la coordination, qui a été coélaborée avec Philippe Henry dont je parlais tout à l'heure. Et on est en ce moment sur la poursuite de ce travail, précisément. Et une des choses qu'on aimerait beaucoup faire, là, dans le temps qui vient, c'est quelques monographies de cas, de pratiques effectives de commun dans nos histoires de lieux intermédiaires. Monographies un peu serrées, quoi, et un peu fouillées. Souvent, le portrait un peu
fait, ça reste trop vague, quoi. Et je pense que ça pourrait être un enjeu d'essayer de, par là, pour nous, de contribuer à cette dynamique. Voilà.
Très bien.
Pour ajouter à ça une petite chose, sur les manières de faire, il y a quelque chose qui se mène à la Friche Lamartine à Lyon avec Thomas Arnera et les fabriques de sociologie autour d'ateliers d'écriture où chaque, et de permanence d'écriture en fait, où sont invités tous les commoners du lieu à s'emparer à un moment donné de la mise en récit, et ils sont accompagnés là-dedans de manière, parce que c'est effectivement pas quelque chose d'emblée évident a priori d'écrire. Il y a des enjeux à ouvrir des espaces et d'accompagnement à l'écriture.
Super. Michel.
Oui, et juste en rebond, la COP des communs a réalisé une demi-douzaine de monographies sur des lieux. Alors, c'est des documents internes, mais normalement, il y a une analyse globale qui devrait être publiée.
Très bien. Alors, l'autre Michel.
Vas-y. J'active mon micro. Moi, ce que je ressens en étant au contact de beaucoup d'organisations, soit de réflexion ou de mise en pratique, c'est qu'on manque encore, ou j'ai pas accès, ou l'accès n'est pas facile, à une véritable segmentation des communs. On parlait des définitions des communs tout à l'heure, mais il serait peut-être souhaitable, sauf si c'est déjà fait, qu'il y ait une véritable segmentation pour que l'on puisse voir véritablement les communs qui se développent. Je pense développer un commun avec notre SIC. Je vois par exemple Mobicop qui se voudra être un commun et qui, si on le compare à Blablacar, est bien loin d'avoir les soutiens que pourrait mériter un projet comme Mobicop. Peut-être qu'une labellisation après une segmentation pourrait permettre de renforcer justement le développement de véritables communs ouverts par opposition à tous ceux qui veulent utiliser en commun telle ou telle chose ou lieu, qui sont quand même effectivement des communs, mais moins ouverts sur la société que d'autres à l'image de Wikipédia, qui reste quand même la grande et belle référence. Et donc après cela, pouvoir obtenir des soutiens, parce que chacun travaille dans son côté, de son côté, au développement de ses communs. Je pense à Tetris aussi. Je pense à beaucoup d'autres projets. Il n'y a pas véritablement d'aide, de soutien, des soutiens précis, particuliers dans divers domaines, c'est-à-dire vraiment une aide, un accompagnement. Il y a quand même de belles choses et tout ça est pour l'instant un peu éparpillé, me semble-t-il.
Merci. Nadine, est-ce que tu veux intervenir ? Ton micro est fermé.
Veuillez m'excuser. Moi, je sens un besoin, à travers ce qui vient d'être dit, un besoin de médiation, au sens de médiation culturelle, par exemple, entre un vocabulaire qui porte des pratiques, les pratiques elles-mêmes, pour boucler sur, de nouveau, des éléments plus théoriques qui permettent de faire sens de la pratique que l'on utilise ou que l'on met en œuvre. J'utilise énormément, moi, les pratiques sociales pour faire émerger les contenus, pour que les gens s'expriment sur ce qu'ils vivent et faire sens de ce qu'ils vivent par rapport à une thématique. Mais l'inverse est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire que les faire s'exprimer sur leur pratique, c'est-à-dire aller à la narration, là, il y a plein de méthodologies pour ça, très belles, très, très puissantes, qui fonctionnent fort bien. C'est ensuite comment l'animateur ou le médiateur prend en main ce qui vient d'être dit, de façon et comment, avec quels outillages, avec quelle méthodologie ou quels outils plus exactement, peut reprendre ça en main pour donner à voir une théorie et faire comprendre ce que la personne vit ou les personnes vivent en termes de pratique de Khomeini. Ce qu'on a commencé à élaborer pour Terre de Liens me paraît une bonne base de travail parce qu'on a déjà segmenté d'une certaine façon entre Khomeini, être un commoneur et les communs. Et donc, parce qu'en effet, je pense que les pratiques soutiennent et à la fois révèlent tout un ensemble de problématiques qui sont pas qui sont très variées et qui font appel à la fois à une posture personnelle, à une pratique personnelle, à une vision politique éventuellement. Il y a tout un ensemble de problématiques juridiques, entre autres, économiques, sociales, pour lesquelles c'est difficile de faire le pont. C'est-à-dire, croiser tout ça, Et quand Mathieu dit que le jeu de cartes est passionnant, mais qu'il est trop touffu et que visuellement, il y a trop de choses, ben, je pense que cette profusion révèle vraiment la complexité des éléments qui s'entrecroisent. On est dans du social, on est dans l'économique, on est dans du juridique, on est dans du politique, on est, ben, on le voit dans de la transmission. C'est complexe et je pense que enfin, moi, en tant que, d'une certaine manière, ayant une certaine expertise de la complexité, ou en tout cas abordant la complexité d'une certaine façon, il me semble que ce qu'il nous faut, c'est commencer quelque chose, c'est-à-dire faire un test, se donner une expérimentation sur un objet particulier, et pouvoir le mettre à l'épreuve de l'usage qui en sera fait derrière, pour qu'on puisse dire bah, « ça marche, ça marche pas ». On a attrapé un bout de cette complexité, mais du coup, on simplifie de trop et du coup, on délite, on appauvrit cette complexité. Voilà, c'est la complexité demande d'attraper les choses par l'expérimentation. Donc, j'aimerais bien, puisqu'on est en train de se caler plus ou moins sur une journée à Lyon à ce sujet, on se donne comme objectif d'une certaine manière de créer quelque chose, même tout petit, mais une sorte de capsule pédagogique en quelque sorte, et de l'ouvrir à des commoners qui auraient l'opportunité du coup d'aller tester cette capsule pédagogique dans leurs divers domaines, que ce soit Sonia sur ses problématiques alimentaires ou Michel à Brest, enfin je veux dire, ce ne sont pas les opportunités de tester quelque chose qui doivent manquer, je suppose. Voilà ce que je vois à l'heure actuelle.
Ça fait une belle commande, je trouve. Alors, moi, je suis le gardien du temps, là, donc on a déjà dépassé 17 minutes, donc on va s'arrêter là. En tout cas, on va mettre en ligne le résultat de... On va mettre en ligne le fichier audio de notre conversation. On va rendre plus lisible peut-être le pad aussi pour que les gens puissent y revenir. Il y a des choses qui vont s'inscrire dans le temps parce qu'il y a, ce qu'a dit Michel, par exemple, la COP des communs qui a déjà fait quelque chose. Du côté de Tetris, je sais que vous travaillez aussi sur des choses et je pense qu'on verra bien émerger des résultats de voyage apprenant à un moment ou à un autre. Ce que disait Nadine et ou Jules aussi, il y a des démarches qui sont en route. Moi, je pense que c'est intéressant. Mathieu, on va voir aussi comment ça se passe. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de se dire que là, il y a, on va gagner aussi à mettre, à rendre cette conversation visible et à voir comment on peut la maintenir pour avancer aussi sur des expériences qui seraient intéressantes. Enfin, croiser, en tout cas, continuer à croiser nos expériences de cette manière-là et voir un petit peu ce que ça donne sans préjuger du fait que ça devienne, je ne sais pas quoi, une communauté ou je ne sais quoi, mais en tout cas de se dire que là, il y a quelque chose qui serait intéressant à continuer à préserver, une chose à laquelle il faut continuer à prendre soin pour qu'effectivement ça se partage entre nous, quoi. Voilà. Je vous remercie tous les, je sais pas combien, 7-8, et puis bonne soirée, bon après-midi, bonne journée à toi Mathieu, bonne soirée à tous ceux qui sont en France. On garde le contact sur tout ça. À bientôt.
À bientôt, merci Frédéric.
Salut.
Merci. Ciao. Au revoir.